Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous avez passé une fin de semaine ressourçante. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part sortir dans la nature, donc j'espère que c'est ce que vous avez fait et que vous l'avez fait avec des gens que vous aimez. En fin de semaine, j'ai vu passer cette histoire qui, moi, personnellement, me donne de l'urticaire, cette comédienne Nadia Essadiki, qui joue donc dans la série de Radio-Canada Doute raisonnable. Elle joue le rôle d'une policière et elle a choisi de mettre sur les médias sociaux une photo d'elle dans son costume de policière. Et elle a écrit sur la photo, elle a écrit les lettres ACAB, qui est un acronyme d'un mouvement qui est très virulent en ce moment. All cops are bastards. Donc tous les policiers sont des salauds. C'est quand même assez particulier, alors qu'on vit une époque où tout le monde dit avec raison qu'il faut pas faire d'incitation à la haine, qu'il faut pas faire d'intimidation, qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il faut pas faire d'amalgame, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, qu'une comédienne qui est sûrement dans d'autres domaines prône l'inclusion et la bienveillance, qu'elle s'en aille dire une énormité aussi stupide que de dire tous les policiers sont des salauds. C'est comme si moi je disais toutes les comédiennes qui sont aussi des chanteuses, ce qui est le cas de Madame Essadiki, toutes les comédiennes qui sont aussi des chanteuses sont des ploucs ou sont des cruches ou sont des tartes. Il ne viendrait pas l'idée de faire une telle généralisation. Mais Madame Essadiki, elle le fait et je trouve ça vraiment pitoyable. C'est ce dont je vous parle dans ma chronique ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Quand j'ai vu passer cette capture d'écran de Madame Essadiki, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ».
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous avez sûrement vu en fin de semaine ce dossier absolument à la fois passionnant et effrayant dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Plus de 40% des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire. Dans le dossier spécial du journal, on décortique ces chiffres-là. On a demandé à différents spécialistes d'offrir des pistes de solutions. Donc, je vous encourage fortement à aller lire ce dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Mais je voulais aussi continuer la réflexion à ce sujet-là avec quelqu'un vers qui je me tourne tout le temps quand il est question d'éducation. C'est bien sûr Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez été surpris, ou c'est des chiffres que vous connaissiez déjà, 40% des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire?
Non, j'ai pas été surpris. La semaine dernière, j'ai donné deux conférences d'ouverture dans deux cégeps différents, là. Et un des commentaires qui revenait suite aux discussions était justement si vous enseignez le français ou la philosophie, ou même d'autres disciplines au collégial présentement, là, mais entre autres français, philosophie, c'est cette question-là de compréhension de lecture, là, qui est directement liée de toute manière à la qualité d'expression écrite, là, c'est vraiment une préoccupation importante au collégial. Donc, je suis pas surpris, il y a un certain nombre de plus que des suggestions, des recommandations qui sont faites depuis quelques années. Vous savez, je viens de passer 28 ans dans une faculté d'éducation, moi, là. Et,
à l'Université Laval, à Québec, oui.
Université Laval, et j'ai eu à échanger avec d'autres collègues de d'autres universités. Et il y a des choses qui doivent être faites au niveau collégial, des choses qui doivent être faites au niveau même, en partant de la maternelle. Et il y a des choses aussi qui doivent être faites au niveau universitaire. À l'université, à titre d'exemple, on enseigne à des futurs enseignants comment enseigner l'orthographe, si on prend l'exemple de l'orthographe. C'est pas le mandat de l'université d'enseigner l'orthographe à des futurs enseignants. Et cette nuance-là devient importante et il faut remonter. Ça va prendre une intervention qui touche l'ensemble des niveaux scolaires.
D'accord. Alors, allons-y, parce que ce que j'aime avec vous, Monsieur Royer, c'est que vous êtes dans l'action, vous êtes dans le concret, puis vous regardez vers l'avenir. Alors, donc, vous nous avez, avec mon collègue, je pense que c'est à Florence Lamoureux que vous avez parlé, vous avez établit trois pistes de solutions. Alors, on va commencer par la première, évidemment. Enseigner le son et le nom des lettres en maternelle 4 et 5 ans, c'est prévu au nouveau programme, mais il y a beaucoup de gens qui le contestent. Pourquoi?
Oui, c'est une bataille. Écoutez, on se fait dire, puis de toute façon, on a des nœuds de recherche solides là-dessus, mais il y a une levée de boucliers de plusieurs profs d'université présentant qui enseignent au préscolaire et d'intervenants. Tiens, écoutez, vous volez l'enfance aux enfants en faisant de la scolarisation précoce, etc. On est loin de... Écoutez, c'est une bataille, hein, une bataille incroyable même, avec des responsables au ministère de l'Éducation qui véhiculent encore cette idée-là que d'intervenir de manière préventive en lecture puis en écriture, entre autres, au niveau du préscolaire, c'est vu comme quelque chose de non acceptable. Mais en clair, la recherche soutient solidement que d'apprendre les lettres, le nom et le son des lettres, et d'avoir des activités préalables à la lecture, là, c'est quelque chose sous forme ludique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand vous arrivez en maternelle de 5 ans, présentement, j'ai à peu près 35 % des garçons et 24 % des filles qui ont un facteur de vulnérabilité, là. C'est une énorme étude québécoise avec des données de chez nous. Donc, c'est pas tout le monde qui a beaucoup de livres à la maison et qui a un niveau de langage bien développé et qui va s'asseoir dans une classe de première année puis apprendre à lire très rapidement. Et sachant que déjà que j'ai des jeunes de 5 ans qui, naturellement, savent déjà lire. Donc, cette idée-là d'intervenir au niveau de la maternelle 4 ans et 5 ans, Dieu merci, c'était rentré pratiquement de force pour une bataille dans le nouveau programme du préscolaire, mais c'est quelque chose qui, au moins, va contribuer à améliorer la situation.
D'accord. Mais ce que je comprends, cette réticence-là, elle part de certains individus qui considèrent que quand on a 4 ans, quand on a 5 ans, on doit être juste uniquement dans le plaisir, dans le ludique, on doit s'amuser et il doit pas y avoir de l'acquisition de connaissances parce que ça contrevient à l'idée même de la très petite enfance. Il me semble qu'on peut concilier les deux. Je sais pas.
On peut concilier les deux et c'est l'idée de s'intéresser à l'écrit.
Mais voilà.
Écoutez, moi, papa d'un enfant de 4 ans, je laisse un petit message en disant, je sais pas moi, le sandwich au jambon est dans le réfrigérateur. Je n'ai pas d'en faire une composition, mais qu'un enfant de 4 ans soit capable de reconnaître, ou un enfant de 5 ans reconnaître le mot jambon, ou que la lettre B fait un son B, puis qu'on soit amusé avec ça, on ait joué avec ça. Plusieurs enfants le font naturellement. J'ai trop d'écart présentement au niveau de l'apprentissage de la lecture, entre les enfants qui nous arrivent en première année. Et l'autre élément, c'est que les textes le mentionnaient aujourd'hui, et les garçons et la lecture, c'est différent des filles et la lecture. Donc, plus on intervient de manière préventive, tôt, et plus on rend les sujets intéressants, la lecture intéressante, et on développe les habiletés de base au début du primaire, mieux vont aller nos garçons en lecture.
Pourquoi il y a cet écart-là encore entre les filles et les garçons?
Ça semble développemental. Il y a une dimension développementale. Vous prenez 1000 gars de 5 ans, 1000 gars de 6 ans et 1000 filles de 6 ans, vous allez avoir une différence au niveau du développement du langage, au niveau de l'intérêt par rapport justement à cette question-là, aux questions associées au langage de la lecture. Mais c'est pas une tare, là. Si on sait comment intervenir, les intéresser, on se retrouve avec, normalement, quand c'est bien fait, vous êtes rendu à la fin de la première année ou fin de la deuxième année, il n'y aura pas nécessairement de grande différence entre garçons et filles, là. Ou entre jeunes de milieu défavorisé ou de jeunes de milieu favorisé. Donc ça, c'est un premier élément, intervenir tôt. Le deuxième, mais là, je fais un saut, il y a déjà un cégep dans la région de Montréal qui a commencé à le faire. C'est d'avoir un profil pour devenir enseignant. Ce que ça signifie, c'est que moi, je suis au cégep, je veux devenir enseignant. En plus de mes cours obligatoires habituels, il y a un profil. Je dois suivre deux cours supplémentaires en français. Parce que dans ma profession à moi, c'est comme en communication, comme votre profession à vous en communication, je vais suivre deux cours supplémentaires en français, j'aurai un cours de mathématiques obligatoire et j'aurai aussi un cours sur comment lire de la recherche là, de manière simple en éducation.
Quelle bonne idée.
Ces quatre cours-là deviennent obligatoires pour me présenter une faculté d'éducation. Parce que présentement, j'ai des gens qui arrivent. Le dernier tiers des gens qu'on accepte présentement en faculté d'éducation, souvent on peut se poser des questions sur leur maîtrise de la langue.
Non, mais ça, c'est inacceptable.
J'ai des gens qui n'ont pas fait de mathématiques depuis le secondaire aussi.
Non, mais la littératie, disons, en mathématiques est importante, mais... Comment peut-on imaginer que quelqu'un qui veut devenir professeur, sa matière première, son outil, disons dans sa boîte à outils, ça va être de s'exprimer devant ses élèves, ses étudiants. Comment peut-on imaginer que quelqu'un ne maîtrise pas ces outils-là? C'est comme un garagiste qui sait pas comment fonctionne un moteur ou qui a pas quelque chose pour faire le changement d'huile. Je veux dire, ça me paraît une aberration.
Écoutez, on est dans un système là, qui donne la chance aux coureurs. Je passe très faible du primaire au secondaire, j'aurai des mesures de rattrapage en français au secondaire. Je passe très faible par la suite du secondaire au collégial, on va donner la chance aux coureurs, on va avoir des mesures de rattrapage ou des interventions pour combler les limites. Je passe à l'université pour devenir enseignant, on va donner la chance aux coureurs, on permet de reprendre les tests d'évaluation, les mesures qu'on a qui sont obligatoires en français, on peut les reprendre le nombre de fois qu'on veut, mais on donne la chance aux coureurs. Et là, il y a eu trop de chance aux coureurs de donner. Là. Mm. Le système est victime lui-même. Il faut éviter que les faiblesses au niveau de l'enseignement, les faiblesses au niveau des apprentissages, l'orthographe, la lecture, etc., soient tellement évidentes que ça se répercute même au niveau de ceux qui un jour auront à enseigner le français dans nos écoles. Et la majorité des profs vont très bien là, au primaire, secondaire, mais j'ai quand même le dernier tiers. Et il ne faut pas se le cacher. Écoutez, là, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais moi, cégep ou moi, université, je suis financé en fonction du nombre d'étudiants que j'accueille.
Et on en accueille trop.
Cette idée-là de donner la chance là, à celui qu'on admet en disant que je vais lui donner une chance, il y aura des cours de rattrapage en français, même si son métier, à son futur métier sortant de l'université, soit d'enseigner le français à des jeunes du primaire ou du secondaire, on va lui donner une chance, on va lui donner des cours de rattrapage en français. Mais c'est un étudiant quand même que je mets dans mon université et qui est financé à quoi? 80-85% par le gouvernement du Québec.
Donc, si je lis entre...
C'est pas correct ce que je viens de dire, là, mais il y a un élément qui joue.
Oui, mais donc, ce que vous êtes en train de dire et qui est pas politiquement correct, c'est que on est en train d'être, en étant trop gentil, on fait rentrer à l'université des gens qui seraient pas à leur place et qui feraient mieux d'aller faire autre chose que d'aller enseigner.
Moi, j'ai une évaluation que je fais passer. Admettons que j'ai une évaluation que je fais passer préalable à l'admission à l'université. Je m'aperçois vraiment que quelqu'un est trop faible en français. Je lui dis, regarde, retourne au cégep, fais une session intensive en français au cégep et représente-toi l'an prochain pour être admis en faculté d'éducation. Mais ça va être difficile à faire parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. Et l'autre élément, c'est que l'université va se dire, ben là, est-ce que je ne serais pas mieux de l'admettre pour être en mesure de donner des mesures de support? Mais éventuellement, il faudra tirer la ligne là-dessus. Et D'accord. Ça implique de toute manière d'intervenir beaucoup plus tôt. Et là, tant qu'à être dans le politiquement incorrect, il y a énormément de projets, de programmes particuliers dans les écoles primaires et secondaires au Québec. Hors études, ski études, écoutez, cheerleading études, nommez-les. Là. Bon.
Pour donner pas vraiment cheerleading études?
Oh, cheerleading études, oh oui. J'ai vu qu'il y ait études dans le passé, mais ça n'existe plus. Là.
Bon, alors, et donc ces programmes particuliers...
Où moi je consacre, prenez baseball études ou quelque chose de genre. Là, moi, il y a quatre demi-journées comme moi, élève de secondaire 1, secondaire 2, il y a quatre demi-journées, je compresse mon horaire, il y a quatre demi-journées où je fais du baseball, où je fais du hockey, où je fais l'activité études en question. Il faudra se poser la question, c'est encore là, c'est pas politiquement correct, mais il faudra se poser la question, quand j'enlève quatre demi-journées d'enseignement, de cours du secondaire, pour permettre aux jeunes de participer à ces activités sportives-là ou autres, là, est-ce que vraiment je suis capable de maintenir la même qualité d'enseignement du français?
Excellente question. Pas politiquement correct du tout. Oui.
Il va falloir se la poser absolument parce que moi, je suis de la dernière année du cours classique, imaginez-vous. Et le nombre d'heures qu'on a consacré à l'apprentissage de la langue, et c'était de la pratique et de la lecture et de la pratique. Et quand je regarde ceux qui sont excellents en français, c'est des gens qui lisent beaucoup, même présentement indépendamment du cours classique, qui lisent beaucoup, qui écrivent et qui savent écrire aussi. C'est un muscle, l'écriture. Hein. Il faut en faire. Et pour bien écrire, il faut être en mesure de lire aussi en même temps.
Voilà. Et c'est assez particulier parce qu'on vit au Québec. Et quand le premier ministre, Monsieur Legault, écrit sur les médias sociaux, je vous recommande tel livre que j'ai lu, il se fait lancer les tomates en disant, ben, vous êtes en pleine pandémie, comment ça se fait que vous prenez le temps de lire? Alors que s'il s'en allait faire une demi-heure de jogging, personne trouverait à redire. Mais la gymnastique de la lecture, ça, c'est une gymnastique qui passe mal au Québec. Et c'est peut-être ça notre problème à la base, c'est qu'on dévalorise le français, on dévalorise la lecture, on dévalorise la bonne expression. On rit de gens comme Mathieu Bock-Côté qui s'exprime avec des mots compliqués. Bref, il y a peut-être une valorisation à faire à la base. Rapidement, Égide, je pense qu'il nous reste 30 secondes.
j'ai eu une question la semaine dernière en disant, c'est pas trop grave que les garçons échouent à l'école, parce que même s'ils n'ont pas de diplôme, ils vont gagner plus cher que les filles rendues à 24 ans. C'est comme si le fait de réussir l'école et d'avoir une forme d'éducation, c'était uniquement une question financière. Et c'est beaucoup plus que ça, c'est une question de culture et de qualité de langue.
Absolument. Et c'est en fait, je pense que c'est une valorisation, c'est une question de valeur qu'on doit changer au Québec. Commençons à valoriser l'effort. Ben oui, lire, ça demande un effort, puis apprendre le français, ça demande un effort. Puis on est parfois une société un peu paresseuse, un peu mollassonne. Faudrait peut-être qu'on se fasse pousser une colonne vertébrale. Et Gide Royer, c'est toujours intéressant de vous parler, surtout quand vous êtes non politiquement correct. Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Donc vous réagissiez à ce dossier sur les élèves qui échouent en orthographe au Québec. Merci beaucoup et Gide, à la prochaine.
Au plaisir.